Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Aujourd'hui, on va parler de Ferrari et de Kimi Raikkonen, puisque c'est officiel, Ferrari, de façon surprenante, a annoncé le maintien de Kimi Raikkonen pour la saison 2016, donc aux côtés de Sébastien Vettel, sauf retournement de situation extraordinaire. Mais ce qui est sûr, c'est que Kimi Raikkonen sera chez Ferrari la saison prochaine. Et donc, pourquoi c'est un timing surprenant et que la décision peut paraître surprenante? Bien, tout d'abord, il faut se souvenir de ses dernières prestations qui sont plutôt mauvaises dans l'ensemble, sauf en Hongrie, évidemment, avec son très bon départ, son très bon rythme en course, mais il y a eu un abandon sur problème mécanique au final. Et donc, le bilan comptable, en particulier sur les 400 dernières courses, est très mauvais, hein, très maigre. Hein. D'autant plus que Bottas, Valtteri Bottas, le pilote finlandais de chez Williams, lui a passé devant au classement du championnat du monde des pilotes pour 2 points, je crois. Donc, Raikkonen est juste 2 points devant Massa, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas assez haut, alors qu'au début de saison, il était quatrième, mais c'était une belle quatrième place. Il fournissait des performances honorable, hein, des bonnes performances hein, pour Ferrari. Les deux pilotes, voilà, faisaient 3-4, enfin, c'était régulier, mais là, depuis quelques Grands Prix, c'est vrai que Raikkonen retombe dans certains travers. Et puis, Maurizio Arrivabene, je ne tente pas l'accent italien, hein, vous m'excuserez, vous le ferez mieux que moi peut-être chez vous. Arrivabene, donc, avait dit clairement, depuis des mois maintenant, que les résultats de Raikkonen détermineraient son futur. Et finalement, ben, les résultats l'ont pas vraiment déterminé son futur. Enfin, c'est discutable et je vais apporter des nuances à tout ça. Mais si on se base vraiment sur les erreurs qu'il a commises, etc., etc., c'est pas vraiment, on va dire des performances qui pourraient faire dire à Arrivabene, bon ben, on va maintenir absolument Raikkonen parce qu'il nous a donné confiance. Eh bien non, là c'est plutôt l'inverse. On veut maintenir Raikkonen pour justement lui donner de la confiance. C'est plutôt ça. Alors c'est totalement le discours inverse. Je vais expliquer le choix qui a été fait donc pour le maintien de Kimi Raikkonen. Ben, tout d'abord, dans un contexte de grand changement avant 2015, avec l'organigramme qui a beaucoup changé chez Ferrari, une restructuration de plusieurs départements, eh bien, après tous ces changements, évidemment, on veut trouver de la stabilité. C'est très important que Ferrari trouve de la stabilité pour consolider des bases solides. Et les bases solides, on les trouve en 2015. Et ainsi, pouvoir remonter au sommet. Ça paraît tout à fait logique. Et donc, pour cette stabilité, on pense d'abord et avant tout aux pilotes. Parce que les pilotes, c'est les personnalités les plus en vue de toute l'entreprise Ferrari. Et oui, il faut bien se dire ça. Du coup, c'est très important que les pilotes respectent l'entreprise Ferrari. Et Vettel et Raikkonen en font partie, de ces genres de pilotes qui vont respecter Ferrari, qui ne vont pas, on va dire, accaparer, on va dire, toute la visibilité sur eux. Et non, ils sauront se mettre en retrait face à leur devant leur écurie, derrière leur écurie. Au contraire d'un Fernando Alonso qui accaparait l'attention, ça c'est vrai. Mais Vettel et Raikkonen, c'est vrai, ils s'entendent bien. C'est deux champions du monde. Ils font souvent des louanges à Ferrari. Dernièrement encore Raikkonen, là, en conférence de presse ce jeudi. Ben, c'est normal, hein, il vient d'être maintenu, donc il allait pas dire que c'est de la merde Ferrari, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que même avant, il arrêtait pas de dire depuis l'année dernière même. Hein, l'année dernière, il arrête pas de le dire, mais les médias ne comprennent pas, je crois. Parce qu'on lui repose la question à chaque fois et à chaque fois les médias relaient son propos comme si c'était vraiment une information alors qu'il le dit depuis l'année dernière. Alors qu'est-ce qu'il dit Raikkonen? Il dit tout simplement qu'il va finir sa carrière chez Ferrari, qu'il souhaite finir sa carrière chez Ferrari. Tout simplement, quand il n'aura plus de contrat chez Ferrari, il arrêtera sa carrière en Formule 1. C'est simple, il leur dit, il doit en avoir marre de rabâcher les choses, je pense. Mais enfin bref, c'est comme ça. Et Vettel, bien sûr, les louanges de chez Ferrari depuis le début, hein, on le sent comme un enfant avec des étoiles dans les yeux depuis qu'il est chez Ferrari, c'est assez beau à voir. Et ça, c'est le cas de beaucoup de pilotes hein, qui sont comme ça c'est vrai. Hein. Ferrari offre un sentiment vraiment très particulier puisque c'est l'écurie qui symbolise la F1, vraiment, hein, une grosse écurie qui symbolise bien la F1. Donc voilà, Ferrari passe devant tout, mais voilà, il faut que les deux personnalités qui sont les plus visibles de cette entreprise sachent se tenir. Et les deux savent se tenir. C'est des pilotes très sérieux. Et qui savent faire le dos rond quand il faut, donc c'est très bien, ça convient très bien à Ferrari. En plus, c'est deux pilotes de talent. Bon, pour Vettel, c'est un pilote de talent parce que tout simplement, ben, quadruple champion du monde, hein, que dire d'autre. Et puis cette année, voilà, il montre tout son savoir-faire, il exploite sa Ferrari au mieux, vraiment, et c'est parfait. Il a su vraiment, vraiment bien s'adapter à ses monoplaces. Avec le moteur turbo-hybride, donc tant mieux pour lui. Et du côté de Kimi Raikkonen, puisqu'on parle de Raikkonen aujourd'hui surtout, eh bien, en début de saison, il a connu du mieux. Et j'ai envie de dire que s'il n'avait pas connu ce mieux, je pense qu'il n'aurait pas été prolongé, ou pas tout de suite, hein, il aurait fallu attendre un peu plus, ça c'est clair. Mais au début de saison, voilà, comme je l'ai dit, il a été mieux. Il était mieux que l'année dernière. La saison dernière, ça lui convenait pas du tout, la monoplace 2014, avec les énormes changements qu'il y a eu. C'était un peu comme Vettel, mais en pire. Donc en début de saison ça allait mieux, donc c'était encourageant, on se disait bon Raikkonen on va peut-être pouvoir le retrouver à bon niveau avec des podiums, voire une victoire ou plus, donc c'est plutôt pas mal. Mais ensuite il est retombé dans des travers de 2014 au niveau du pilotage, on a vu au Canada avec sensiblement le même problème que la saison dernière, en Autriche avec une erreur vraiment de débutant j'ai envie de dire. Et voilà, il y a eu plusieurs grands prix comme ça, c'est assez dommage. Et forcément, après, quand il arrive une tuile au niveau mécanique, eh bien, ça ne pardonne pas au niveau des points, parce qu'avant, on n'a pas fait le boulot pour engranger les points quand il le fallait. Et voilà, Raikkonen retombe donc dans est donc retombé dans des travers. En Hongrie, ça allait mieux. En Hongrie, ça allait mieux, c'est aussi une source d'encouragement qui est bien. Donc ça fait dire quoi tout ça? Si on mélange tout ça fait dire que quoi? Ça veut dire que Raikkonen reste un bon pilote, pas aussi exceptionnel qu'avant, c'est sûr, peut-être, mais il reste bon et puis il peut retrouver son très bon niveau par moment. Et au début de saison, là en Hongrie, espérons qu'il continue sur cette lancée, ça c'est clair. Mais voilà, même quand il ne suit pas cette lancée, il marque quand même des points, mais il faudrait pas que ses erreurs se reproduisent trop souvent, quoi, parce que c'est vrai que là il en a déjà fait assez et. Il faut pas, faut vraiment pas que ça se reproduise parce que même si Ferrari a une confortable avance sur Williams au championnat du monde des constructeurs, ça ferait mauvais genre quand même que Raikkonen finisse derrière les Williams au championnat du monde pilote, même si au final ça gênerait pas tellement, mais en tant que champion du monde, c'est vrai que ça la fout mal, c'est quand même moyen de sa part et on pourra qu'interpréter sa performance de façon pas très bonne compte tenu de son standing. C'est surtout ça. Hein. Raikkonen a un standing. Et d'ailleurs, il faut en parler. Parce que c'est aussi une des raisons qui fait que Ferrari a décidé de le conserver. C'est que Raikkonen a un standing. Il a un meilleur rayonnement que tout autre pilote qui aurait pu aller chez Ferrari. Il est champion du monde de Formule 1. Donc il est connu de beaucoup dans le monde. Donc au niveau marketing évidemment c'est un plus et puis tout simplement c'est toujours un pilote de grand niveau quoi et qui connaît bien la maison donc on prend pas trop de risques. Ferrari ne veut pas prendre de risques, cherche la stabilité tout simplement et cette raison fait partie de cette recherche de stabilité. Et aussi il faut dire que voilà tant qu'il a un certain niveau donc celui que j'ai décrit là, celui de 2015 c'est un certain niveau qu'on peut pas qualifier comme exceptionnel. Comme son coéquipier, parce qu'il faut bien dire qu'il a coopté un coéquipier exceptionnel. Hein. C'est pas parce qu'il se fait dominer par son coéquipier qu'il est mauvais, tout simplement. Il faut bien distinguer le début de saison, les premières courses où il arrivait à faire des bonnes performances. Alors, et il était derrière Vettel, donc pour certaines personnes, on pourrait croire qu'il est éclipsé par Vettel et donc qu'il est pas bon, qu'il fait pas des bonnes performances. Mais si on ramène aux performances de l'année dernière, il fait des bonnes performances. Et si en plus on tient compte que Vettel est vraiment un pilote exceptionnel, d'un calibre vraiment très très élevé, eh bien on peut nuancer les performances de Raikkonen qui sont pas si mauvaises que ça en début de saison. Après évidemment il a commis des erreurs, Ferrari aussi sûrement, et donc il n'a plus marqué trop de points. Et en Hongrie, ça s'est un peu réglé. Maintenant, il faut qu'il continue sur cette lancée. Donc voilà, et il a un certain niveau. Et donc, il a l'envie pour l'instant de continuer. Et comme il l'avait dit aussi l'année dernière, donc c'est pas nouveau, il a dit tant que j'ai l'envie et que je sens que je peux me fixer comme objectif d'être champion du monde, eh bien, je reste chez Ferrari. Enfin, parce que c'est vraiment lui aussi qui voudrait, qui a l'emprise aussi sur. Sur son destin, s'il a envie de continuer ou pas, hein. Il y a aussi de ça, hein. Je pense que Ferrari l'a aussi consulté en lui demandant s'il se sentait prêt pour la saison prochaine. Et il se sent prêt puisqu'il a déclaré que voilà, il espère que cette prolongation, eh bien, chez Ferrari, va être la rampe de lancement pour lutter pour le titre en 2016. Il a été clair là-dessus, hein. C'est vraiment un compétiteur né, Raikkonen, il faut pas l'oublier. Et il veut vraiment revenir au plus haut niveau et peut-être faire un dernier baroud d'honneur. Ça serait formidable. On va voir s'il en est capable. En tout cas, attention parce qu'il a un coéquipier allemand très très fort. Mais en tout cas, aider à prendre le championnat constructeur, ça peut être jouable. Faut voir. Si vraiment il revient dans le coup dans le championnat du monde pilote, ce serait vraiment très fort parce qu'il reviendrait de très loin quand on regarde la saison 2014. Tout simplement. Et aussi, je parlais de la confiance accordée par Ferrari. À mon avis, Ferrari a bien compris que Kimi Raikkonen est un pilote qui a besoin de recevoir des marques de confiance de son écurie pour bien performer. Évidemment, et pour que la bonne ambiance soit maintenue. Parce que souvenez-vous, chez Lotus, quand il y avait l'histoire des salaires non payés, et Raikkonen en faisait partie des salaires non payés, Raikkonen n'hésitait pas à exprimer son mécontentement. Dans la presse tout simplement, et évidemment ça la foutait mal pour Lotus, c'était pas une très bonne ambiance, et donc je pense que Ferrari a compris ça. Ferrari ne veut pas que Raikkonen continue peut-être à dire eh bien vous n'avez qu'à demander à Ferrari, c'est à eux qu'il faut demander pour l'année prochaine, ça ne dépend pas de moi, parce qu'il n'arrêtait pas de dire ça, hein, Raikkonen, il n'arrêtait pas de dire ça ne dépend pas de moi pour être prolongé la saison prochaine, ça dépend de Ferrari, mais moi j'ai envie. Donc à mon avis, Ferrari, ils veulent absolument avoir du discours positif autour d'eux et ne plus avoir de négativité. Ce qu'ils ont pu avoir avec Alonso, peut-être. Ils veulent vraiment rester dans le positif, avoir cette spirale positive. Ils l'ont sportivement, ils veulent l'avoir aussi dans la communication, dans tout ce qui entoure la course. Et donc, ils donnent à Raikkonen ce qu'il veut, c'est-à-dire sa saison en plus, et puis ça arrange tout le monde, Ferrari comme Raikkonen, comme démontré un peu plus tôt dans le podcast. Quelles sont les conséquences maintenant de cette décision? Parce que ça, évidemment, sur le marché des transferts, on va dire, vient de s'animer la silly season, comme on dit, avec Sauber, et maintenant avec Ferrari. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, tout simplement, ça va être marrant, puisque ça entraîne déjà des rumeurs pour 2017. Pour un éventuel remplaçant de Raikkonen. Alors à peine on le prolonge pour 2016 qu'on se demande le remplaçant qu'il aura en 2017. Et évidemment on fait courir des rumeurs folles. Donc c'est assez triste. C'est assez triste, j'ai envie de dire. On veut entretenir le fantasme. On veut nourrir le fantasme des gens. Et alors que d'analyse F1, je n'ai surtout pas envie de faire ça. Enfin. Évidemment, on a tous des espoirs qu'il y ait des changements. Par exemple, quand je parle de changement de règlement, quand je critique les pénalités qui sont trop nombreuses, je sais pas d'autres, le DRS, je parle d'amélioration possible, mais je ne parle pas de rumeurs. Je dis pas « oui, il paraît que la FIA va faire ça, pourrait faire ça d'après telle personne », alors qu'il n'y a pas de source officielle. Non, je préfère, on va dire, au lieu d'alimenter le fantasme de tout un chacun autour de la Formule 1, je préfère alimenter, l'actualité, alimenter ce qu'il se passe maintenant, alimenter le présent, on va dire, pour vraiment lui donner une dimension d'analyse, une dimension analytique, et qu'ainsi vous puissiez vibrer autour de la F1 de cette façon, voilà, par le présent. Parce que quand on cherche, en fait, ce qui est très mauvais, ce qui est contre-productif, de la part des médias de la Formule 1, et qu'ils ne se rendent pas bien compte pour certains. Je ne mets pas tout le monde dans le même lot, évidemment, il ne faut pas généraliser. Hein. Je consulte ces sites et il y a des très bons articles, il y a des très bons journalistes, hein, évidemment, mais quand même parfois, il y a ce genre d'articles rumeurs pour faire du clic. Bon, on pourra en parler longuement, on va dire, du système des sites internet avec les revenus publicitaires de moins en moins élevés. Si vous avez suivi un peu le milieu du jeu vidéo, le milieu du jeu vidéo connaît ça actuellement, une sorte de crise. Et ben la crise, elle concerne également le milieu du sport, hein, au niveau des sites de sport et donc les sites de Formule 1, où on va dire les revenus publicitaires n'étant plus ce qu'ils étaient apparemment. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais à cause de ça, eh bien, on va dire que il y en a certains qui cèdent aux chandelles du buzz facile, du clic facile, et malheureusement, ça donne des articles de pas très bonne qualité, voire de piètre qualité, souvent les articles que je dénonce dans Analyse F1 d'ailleurs. À côté de ça, heureusement, il reste encore des dossiers intéressants, des articles intéressants, et ça, c'est tant mieux, c'est tant mieux, et il faut que ça reste comme ça. À mon avis, il y a moyen de faire du clic avec des articles intéressants et il y a moyen de renouveler la formule d'un site internet pour générer plus de trafic, notamment via divers formats, peut-être le format podcast d'ailleurs, mais surtout le format vidéo qui est un format très en vogue actuellement. Après, voilà, au niveau des revenus, je ne sais pas trop comment ça se passerait pour les vidéos, mais au moins ça renouvellerait peut-être le genre. Et... Enfin bon, ça c'est des idées ici et là. Il y a certains sites qui d'ailleurs... essaye de suivre ces renouvellements. Ouais, c'est des petites idées, mais je vais pas trop m'égarer là, déjà je m'égare assez. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, je voulais dire oui que dans Analyse F1 j'entretiens donc plutôt, je préfère parler de ce qu'il y a d'actuel, d'entretenir la passion actuelle, on va dire, au lieu de générer le buzz autour de fantasmes qui au final se révéleront faux. Et oui, donc, je m'étais bien perdu, puisque là où je voulais en venir, c'est que quand des médias veulent, on va dire, alimenter des fantasmes, tout simplement, ça alimente le désir, et ça alimente donc l'idée sous-jacente, que la F1 actuelle, pour n'importe quoi, hein, que ce soit pour le line-up, pour les moteurs, le bruit, etc. Ça alimente l'idée actuelle, l'idée fausse d'ailleurs que les gens peuvent se faire, que la F1 actuelle est nulle et que donc elle pourrait être mieux. Et que donc elle serait mieux parce que voilà. Évidemment, ça alimente ça. Et c'est très mauvais, c'est très contre-productif. Alors évidemment, les médias ne sont pas là pour cirer les pompes de la F1. Ce n'est pas ce que je dis. Et je pense que dans Analyse F1, je ne cire pas les pompes de la Formule 1 plus que ça. J'aime bien la F1 évidemment, mais je reste très très juste, hein. J'essaye d'être le plus objectif possible et quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis, hein, vous le savez, j'ai déjà énoncé les certains exemples de critiques que je peux émettre un peu plus tôt dans le podcast. Donc voilà, mais il faut être justement le plus objectif possible et voilà, bon, s'il y en a qui préfèrent être contre-productif avec le sport, tant pis. Tant pis, tant mieux peut-être pour eux au niveau des revenus, mais bon, tant pis pour la qualité, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage. Bref, j'ai encore parlé longuement des journalistes qui, on va dire, certains journalistes, voire rédacteurs, voire pigistes, qui malheureusement doivent, on va dire, alimenter certains buzz. Mais malheureusement, ce sujet, hein, c'est un sujet fil rouge, hein, je peux pas y manquer à chaque fois il y a ça. Bref, donc il y a les rumeurs. Ensuite, il y a Ferrari qui va pouvoir travailler un peu plus sereinement puisque, voilà, c'est ce que j'ai dit, il y a de la stabilité, c'est ce qu'ils cherchent et donc tout le monde va pouvoir travailler sereinement, l'écurie, les pilotes, tout le monde. Et Bottas et Williams vont pouvoir, on va dire, bosser plus sereinement et avoir une relation un peu plus saine puisque les rumeurs les ont bien affectés. Et oui, on reparle des rumeurs, mais les rumeurs les ont bien affectés. Bottas l'a dit, hein, que ça l'a bien affecté, que les relations avec Williams également, c'était un peu plus tendu. Hein, c'est ce qu'on pouvait analyser, interpréter des différentes déclarations. Donc là, ça devrait aller mieux entre les deux. Et tant mieux, hein, tant mieux. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs autour de Bottas, alors que finalement, c'était pas le seul qui avait des discussions avec Ferrari via son management, hein, il y avait Ricciardo, il y avait Hülkenberg, il y avait même Grosjean. Donc bon, voilà, bon, ça c'est positif. Et voilà, on disait que au début de la silly season, de la saison des transferts, on disait que le mouvement chez Ferrari, tout mouvement qui allait se passer chez Ferrari, donc par rapport à Raikkonen, eh ben ça serait la clé qui allait faire bouger les transferts. Le problème, c'est que la porte n'est pas ouverte. La porte n'est pas ouverte, donc ça bloque un peu le marché des transferts, qu'on devine, que certains devinent qu'il sera, on va dire, assez fermé. Moi, je ne serai pas aussi catégorique. J'attends, peut y avoir des surprises hein, d'ici la fin de saison. Mais d'ici l'intersaison, il peut y avoir des surprises. Et puis, il y aura toujours du mouvement chez Haas, la nouvelle écurie Haas F1 Team, l'écurie américaine en 2016. Puisqu'il y a deux baquets à prendre, et là, vu qu'il n'y a pas eu de mouvement chez Ferrari, eh bien, ça fait même plus de prétendants pour les deux baquets, je pense. Déjà qu'il y en avait pas mal. Eh bien, on va voir s'il y a des surprises d'ici la fin de la saison, peut-être dans des écuries, peut-être que chez Williams ça va bouger, peut-être que chez Mercedes tout va s'envenimer d'ici la fin de saison et que ça va bouger. On ne sait pas, hein. Après, c'est peu probable, mais bon, je ne préfère pas prendre de risques chez Red Bull, peut-être également, on va voir, hein. Bref, à voir, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de mouvement chez Ferrari, eh bien, en tout cas, ça n'assure pas du mouvement ailleurs. Alors que s'il y avait eu du mouvement chez Ferrari, eh bien, on serait sûr qu'il y aurait du mouvement ailleurs. C'est logique, hein. C'est une relation de cause à effet, c'est un engrenage. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Désolé d'avoir digressé pendant un peu trop longtemps et de m'être un peu perdu sur l'histoire, encore une fois... du buzz malsain, on va l'appeler comme ça, cette histoire. Peut-être ferai-je un podcast un jour là-dessus, une émission, mais j'aimerais avoir des intervenants pour ça, en fait, et pouvoir interviewer des personnes pour ça. Ce serait bien plus intéressant et bien plus enrichissant pour ce que je veux faire, d'ailleurs, pour en parler, pour parler du sujet. Donc, à voir plus tard, hein, il faut que j'ai le temps de me consacrer à tout ça aussi. En tout cas, le prochain podcast, je l'espère. Alors là... je l'espère, ce sera l'émission numéro 9. Je n'ai pas encore le thème, je ne suis pas encore décidé à 100% sur le thème, mais en tout cas, il faut la faire, cette émission numéro 9. C'est important, puisque ça fait longtemps que j'ai fait la précédente, je crois. Et donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis aussi, n'oubliez pas ce week-end le Grand Prix de Spa en Belgique, Spa-Francorchamps, Grand Prix mythique, à ne pas louper vraiment, 14h dimanche après-midi. Eh bien, voilà. Et donc, n'hésitez pas également à suivre Analyse F1 sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous tapez Analyse F1, vous devrez le trouver, et sur Twitter, @F1Analyse. Je vous remercie encore une fois, et en attendant la prochaine course, en attendant le prochain podcast, eh bien tous ensemble, vivons notre passion. Bon week-end à tous.